Et voilà. Alors, donc, je vous partage mon écran. Alors, vous ne me verrez plus, c'est dommage, mais bon, c'est peut-être mieux d'avoir le PowerPoint. Voilà. Et je vous le mets même en mode écran complet. Voilà. Et ma petite bouille apparaît sur la colonne de droite. Si des fois vous voulez encore me regarder. Alors, donc on se retrouve là, ce petit module hein, pour trois soirées qui portent sur la doctrine sociale du pape François, ou du moins sur trois textes importants de son pontificat. Il y a en effet, c'est pas ça que je veux, ah, décidément, bon, alors attendez, hop, il faut que je reviennent. Je ne sais pas ce qui me fait. Je suis à vous dans une minute. Hop là, comme ça vous voyez défiler tout le truc. Voilà. Pof. C'est bon. Et voilà. Ah, voilà, ça marche mieux là. Donc, trois textes importants de son pontificat à Maurice Laetitia, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est une exhortation apostolique, ce n'est pas une encyclique. Je vous ferai la fois prochaine un petit point pour préciser quelle est la différence de statut dans le statut d'autorité, notamment de ces textes-là. Entre une exhortation apostolique et une encyclique, ce n'est pas tout à fait le même degré. Fratelli Tutti, c'est une encyclique, c'est la dernière même encyclique, en 2020. Et Laudato Si, c'est une encyclique aussi, probablement la plus importante. Le pontificat de François n'est pas fini, mais certainement, elle a beaucoup marqué l'opinion, même au-delà des frontières de l'Église. On en reparlera dans la troisième séance. Elle date de 2015. Il avait écrit une première encyclique, La lumière de la foi, en 2013, mais elle n'a pas de caractère social. Elle ne rentre pas, disons, dans l'enseignement social de l'Église. Donc, je n'en parle pas. Cependant, si on voulait faire une enquête complète sur son enseignement social, alors il faudrait se référer à des centaines de sermons, exhortations, lettres pastorales, audiences générales, etc. Parce que le caractère éthique, la volonté d'engager l'Église dans une transformation des mœurs, des structures sociales, des sociétés, est évident chez ce pape François. Et donc, on ne va pas faire en trois soirées l'ensemble de la doctrine sociale. Nous avons choisi, c'est un nous qui n'est pas un nous de majesté, c'est le bureau du CIF, nous avons choisi d'ajouter aux deux encycliques, qui elles ont évidemment un caractère social, un Fratelli Tutti, Laudato Si. Nous avons choisi d'ajouter le texte que le pape a donné à l'Église à la suite d'un long processus synodal que je vais vous expliquer dans un moment. Et ça a donné à Maurice Laetitia, La joie de l'amour. Parce qu'il y a là, si on a choisi de la mettre, c'est parce qu'il y a là des aspects sociaux et éthiques, et parce que ce texte a provoqué quelques turbulences à l'intérieur même de l'Église, plus que les autres textes du pape François, et on va voir pourquoi. C'est très intéressant. Donc voilà le plan que je vous propose pour cette première soirée. D'abord, on va voir le contexte, ensuite le texte, et ensuite les ouvertures du chapitre 8. Peut-être que vous avez entendu parler, mais c'est précisément là-dessus que portent les querelles. Les querelles, il faut bien parler comme ça. Il y a eu à l'intérieur de l'Église à propos des ouvertures que favorise ce chapitre 8 d'Amoris Laetitia. Mais avant, il faut quand même s'intéresser à l'encyclique comme telle. Et donc, premièrement, le contexte, ben, j'y vais, hein, je parle d'un double synode, et puis après, on verra la question, qu'y a-t-il de social dans cette promotion du mariage chrétien, car il est bien, de la famille chrétienne, car il est bien question de ça. Alors, le contexte, tout d'abord, c'est un synode double qui est à l'origine de ce texte. Probablement demandée au pape François par les évêques réunis qui ont une en 2015, l'autre en 2016. Il s'agissait alors de réunions d'évêques. Vous allez voir qu'il y a une petite différence avec ce qui a suivi, une réunion d'évêques du monde entier. Alors, c'est intéressant qu'ils viennent du monde entier quand même, vous allez voir quoi. Mais depuis 2016, le pape a souhaité ouvrir le dynamisme synodal à la participation des laïcs. Et c'est donc la démarche amorcée en 2021, peut-être à laquelle vous avez participé, démarche qui porte sur le mode de gouvernance de l'Église via la vox populi appelée dans l'Église sensus fidei, c'est-à-dire on demande à tout le monde son avis. Mais en 2015, il n'y a encore que des évêques et éventuellement quelques experts en théologie et en sociologie. Et la question de ce synode à deux étapes, la question est principalement celle de l'avenir de l'Église, de l'avenir de la famille. De l'avenir de la famille, c'est le thème principal. En effet, dans un contexte contemporain où les figures de la famille évoluent énormément partout dans le monde, et ce n'est pas qu'un fait européen, qu'on tente de le cacher ou pas. Et c'est les figures au pluriel de l'Église sont en train de bouger d'une manière invraisemblable, comme c'était jamais arrivé dans l'histoire. La surprise a été que partout dans le monde, c'est ça l'avantage de réunir un synode des évêques, et nous sommes la seule institution à pouvoir se le permettre, c'est que vous avez tout d'un coup un éclairage mondial, ce que n'ont jamais nos parlements. Le Parlement de l'Église, si on peut ainsi parler, a une perspective mondiale. Et là, on a constaté, ça a été d'ailleurs, on pouvait s'y attendre, mais ça a été une source d'étonnement, on a constaté un énorme décalage entre ce qu'on continue à appeler la règle ou la norme dans l'Église et la réalité de terrain qu'on observe partout. Cette réalité est déjà différente d'une culture à une autre. Mais même à l'intérieur de chacune des cultures, il y a une grande diversité des familles, des types de familles. Chez nous, en Europe ou aux US, ce serait plutôt un éclatement des types de familles qui s'imposent. Famille s'écrit forcément chez nous au pluriel, famille recomposée, couple homosexuel, avec ou non adoption d'enfants. Le modèle de la famille catho, abonnée d'ailleurs à la revue Famille chrétienne, reste majoritaire, du moins dans les projets et les aspirations. Mais, et on s'en est enfin rendu compte, c'est une courte majorité. Ça, c'est vrai pour nos cultures. Partout dans nos milieux européens, s'imposent de nouvelles manières de vivre ensemble. Tandis que dans les pays les moins favorisés, c'est-à-dire quand même les trois quarts de notre humanité, et je ne parle que de ceux qui sont marqués de culture chrétienne, ce sont plutôt les difficultés de la vie, la violence, les guerres, la faim, les mœurs, décomposent l'image idéale de la famille que l'Église continue à vouloir promouvoir. Les évêques, même les plus coincés dans une gangue de dogmatisme, ne peuvent plus être aveugles ni insensibles à l'énorme décalage entre la théologie du mariage, la discipline qu'on impose et la réalité effective des couples et des familles souvent marqués par les drames de l'existence, qui ne sont pas seulement le fait de caprices d'enfants gâtés, ce qu'on pourrait dire à la limite de quelques occidentaux, mais on ne peut pas le dire du reste de l'humanité chrétienne. partout, le pape l'a souvent dit, hein, le pape François l'a souvent dit, partout, les femmes élèvent seules leurs enfants. Elles ont été abandonnées. Donc, quid du modèle idéal de l'Église, décidément, quid du modèle idéal de la famille? Pas une famille, même chez nous, n'est épargnée par les blessures des séparations, des ruptures, des violences, des divorces. Tout le monde a dans sa famille des jeunes qui ne veulent plus des modèles ou soi-disant modèles de conjugalité et de parentalité, que pourtant l'Église veut continuer à promouvoir. Donc voilà, et voilà le contexte. C'est quand même un contexte très intéressant. L'Église veut continuer à promouvoir un type de famille qui semble s'effondrer partout dans le monde. Il y a 30 ans, on aurait dit bon, c'est une affaire de gauchistes, déconstructivistes. Mais non. Et donc voilà. Alors, voilà le contexte. Et donc, vous comprenez bien qu'il a fallu deux synodes pour faire le tour des questions. Un grand nombre de ces questions portent sur l'attitude de l'Église par rapport à ces couples et familles cabossées. Veut-on une Église de purs ? Ou accueille-t-on cette situation globale sans la bénir, ni la promouvoir, bien sûr, mais sans non plus tout rejeter et tout obscurcir, chargé encore plus de la condamnation que ce serait une situation de péché grave. Voilà le fond de la question sociologique, théologique. Et puis une autre question derrière, pastorale. Comment fait-on pour accueillir cette immense diversité et ce cabossage général? À l'issue de ces deux années, le pape s'est donc attelé à l'écriture d'un texte abondant, probablement, moi je crois vraiment trop abondant, 250 pages. Qui va lire ça? 325 paragraphes. Et donc, je vais vous aider à faire le tri et à rentrer quand même dans l'intelligence de ce texte. Alors, il faut bien le dire, partout dans le monde, on a beaucoup espéré. C'est pourquoi, à la lecture de l'exhortation, on a l'impression que pas grand-chose n'a bougé. La montagne a-t-elle accouché d'une souris ? Alors, oui et non. Alors, vous allez bien regarder cette petite souris parce qu'elle va nous servir de mascotte pendant toute la soirée. Parce qu'en effet, à Maurice Laetitia reste important. Il n'y a pas de grande turbulence, mais il y a plein de petites souris. Il y a plein de petits décalages. Et c'est ça qui va nous intéresser, qu'on va observer dans un moment. Mais, deuxième question, bon, vous avez compris le contexte, l'histoire. Deuxième question, qu'y a-t-il de social ? Est-ce que ça rentre dans le système de doctrine sociale de l'Église ? Ou autre question, pourquoi proposer à la fin d'un cours sur la morale au CIF une réflexion sur la famille ? Est-ce qu'on peut classer cette exhortation dans la doctrine sociale de l'Église ? La réponse est oui et non. Non d'abord, mais ça on va y revenir, vous allez voir, parce que le cœur de la théologie du mariage n'est pas d'abord moral. Et s'intéresser au mariage et à la famille, dans la doctrine de l'Église, ça n'est pas d'abord de la morale. Alors ça c'est très important. Mais c'est d'abord de la théologie sacramentelle. Mais oui, quand même, ça fait partie du corps de doctrine sociale, parce que toujours l'Église, et elle n'est pas la seule, pense le mariage et la famille comme une institution sociale. Et c'est une des raisons pour laquelle on veut la défendre. Parce qu'il y a un caractère, un impact, une importance sociale. La famille fait partie de la construction effective de nos sociétés. Donc, voyons ça, ce point-là, mais bon, rapidement hein, quand même, parce que il faut qu'on rentre dans le corps du texte. Contrairement à ce qu'on croit, et peut-être à ce que l'Église elle-même a laissé comme première annonce, première affiche, ce qui est central dans la pensée théologique et sociale de l'Église concernant la famille, ce n'est pas la morale sexuelle. Nous avons fait le lit de nos adversaires, déconstructivistes, anticléricaux, quand nous nous sommes crispés sur les questions de préservatifs, ou quand, bien avant, un siècle avant, nous avons réduit notre enseignement sur la famille à des listes d'interdits, de pudibonderies, d'hypocrisie, et pour le dire en un mot, d'obsession sexuelle. Les faits récents des scandales dans l'Église ont suscité de la colère, peut-être à cause de la gravité des faits, mais surtout du fait du lourd passé de prédications culpabilisatrices et de surveillance mal placée concernant précisément et trop systématiquement cette pudibonderie. Et c'est pour la raison pour laquelle on a oublié que le discours de l'Église sur la famille était bien plus large et bien plus intéressant, et en vérité, bien plus théologique que cette seule morale sexuelle. La vraie pensée de l'Église en matière de famille n'est pas faite de règles, d'interdits ou de douanes pastorales. La vraie pensée de l'Église sur la conjugalité, c'est l'amour. L'amour, vous allez me dire, ah bah quelle banalité. Pas du tout. C'est pas du tout une banalité. L'amour comme mode d'expression de la transcendance. Et deuxièmement, comme participation à l'œuvre créatrice de Dieu, pas comme règle morale, ni ce qu'on voit aujourd'hui beaucoup plus, ni ce vague prêt à consommer sentimental. Et dire que le mariage, la famille est fondée sur l'amour, c'est une nouveauté. Que les gens s'aiment, bien sûr, ce n'est pas une nouveauté. C'est de toujours et de partout, probablement, enfin, faut l'espérer. Ce qui est nouveau, c'est de fonder la famille là-dessus. Ah, c'est ça qui est nouveau. Fonder la famille sur l'amour humain. La famille est comme un foyer d'amour créateur, car il y a de la création et de l'humanisation que dans l'amour. Et par là, la famille est une petite église, une église domestique, comme on dit, foyer de présence du divin. C'est ça la bonne nouvelle. Je dis que c'est une nouveauté, mais nous autres en Occident, tant héritiers, inconscients que nous sommes de la culture chrétienne, on ne s'en rend plus compte. Mais dans la Rome antique, il suffit de comparer les cultures et les civilisations. Dans la Rome antique, par exemple, on n'aime pas sa femme. Quel drôle d'idée! Pourquoi voulez-vous qu'un Romain aime sa femme? Enfin, je veux dire, ce n'est absolument pas la raison du couple ni de la famille. Aimer n'est pas la raison du couple. Aimer n'est pas la cause de la famille, ni la raison, ni ce qui l'anime. Pour l'amour, il y a d'autres relations et un vagabondage parfaitement admis. La famille, le foyer, c'est pour faire des enfants et assurer les successions et assurer un certain cadrage social. Voilà les trois raisons dans presque toutes les cultures du mariage et de la famille. D'ailleurs, quand on lit, par exemple, la bibliographie de Justinien, on est surpris. Justinien, c'est un empereur byzantin du VIe siècle. On est surpris quand les biographes insistent sur l'amour qu'il portait à sa femme Théodora. L'impératrice Théodora qui a eu tant d'importance pour l'Empire byzantin au VIe siècle. Mais si on le signale ainsi, si les historiens le signalent ainsi, ce n'est pas pour faire de Justinien un modèle de sainteté, hein, Dieu sait. Mais c'est parce que aimer sa femme à ce point, c'est une rareté. C'est presque incongru. Et ces biographes, déjà devenus chrétiens, visent alors cet idéal pour tous. Et c'est la raison pour laquelle ils disent, ils insistent en disant « Regardez, même Justinien aimait sa femme !» Et tout le monde pousse des grands cris en disant « Oh, quel miracle !» Ou certains poussent des soupirs en disant « Quelle incongruité !» Donc vous voyez, quand je dis que c'est une nouveauté, c'est vraiment une nouveauté. C'est une invention chrétienne même. Donc pas l'amour, qu'un homme aime une femme et réciproquement, c'est pas une nouveauté ça. Ce qui est une nouveauté, c'est fonder la famille là-dessus. L'amour comme raison du mariage, comme enracinement d'une théologie, comme matière du sacrement, ça s'est construit du 9e siècle au 12e siècle. C'est donc assez tardif. Les historiens nomment, repèrent, je vous ai mis les noms ici parce que ce n'est pas très connu quand même, Yves de Chartres au XIe siècle et Hugues de Saint-Victor, un Parisien, au XIIe siècle, comme les théologiens fondant cette doctrine des raisons et des fins du mariage dans l'édification mutuelle des époux. Donc, ouais, notez bien ça. Du 9e, 10e, 11e siècle, l'Église promeut cette idée tout à fait nouvelle, tout à fait incongrue, que les raisons, c'est-à-dire ce pourquoi on se marie, et les fins, les finalités du mariage sont l'édification mutuelle des époux. Ni l'ordre social, Napoléon, ni faire des enfants, Rome. On est encore bien surpris d'apprendre que c'est l'Église, à la période de la féodalité, qui a imposé en Occident la liberté des époux, je veux dire la liberté mutuelle, c'est-à-dire de la femme aussi. C'est l'Église qui a imposé ça, contre les mariages arrangés, forcés ou purement économico-politiques. C'est le, je vous rajoute, un nom, c'est le pape Léon, donc du 5e siècle, hein, qui sur ce point, la liberté mutuelle des époux, a inspiré Incar de Prince au 9e siècle, qui en fait une loi. Vous voyez, c'est très important, hein, cette liberté mutuelle des époux. Ça veut dire en gros que la femme n'est pas contrainte dans un mariage arrangé. Donc, vous voyez, tant de nouveautés dans la théologie du christianisme sur la famille. C'est quand même assez étonnant. Cependant, il faut bien dire que tous ces aspects très innovants et libérateurs ont été comme voilés par un épais écran de fumée qu'est la honte obsessionnelle et ambiguë concernant la chair, le corps, la sensualité, la sexualité. Il faut bien l'avouer, on a également émis cet épais écran de fumée. Or, ce pessimisme, ce regard fautif, culpabilisateur, a cohabité dans l'Église avec ce premier courant dont je viens de parler. Cohabitation encombrante dont, je crois, on ne s'est pas encore débarrassé. Sur ces points que je viens d'évoquer, mais que je ne vais pas développer, ce serait vraiment passionnant, mais c'est un autre sujet. Sur ces points, je dois renvoyer à quelques ouvrages plus savants et plus complets. Donc, je vous conseille beaucoup, si vous avez du temps, c'est un livre un peu savant, dirigé par Louis-Marie Chauvet, « Le sacrement du mariage entre hier et aujourd'hui ». C'est là où on voit comment L'Église s'est saisie petit à petit de toutes ces questions que je viens d'aborder. Et plus simple, Michel Rouche, qui est mort aujourd'hui, hein, qui est un historien qui s'est rendu connu en France par son histoire de Clovis, et il est, sa deuxième passion, bah, c'est ces deux titres-là, « Sexualité, intimité et société sous le regard de l'histoire », ou bien « Petite histoire du couple et la sexualité », qui est un livre plus savant. Et puis, si vous voulez vous intéresser aux racines philosophiques, sociologiques et théologiques, alors vous avez ces deux livres, Alain Mathioz, Les dons du mariage. Alors, les dons du mariage, on va voir, vous voyez, c'est des guillemets. Les dons du mariage, c'est ce qu'on appelle aussi les fins du mariage, les fidélités. C'est un livre de théologie absolument passionnant, mais un peu trapu. Alors, je vous signale que je laisserai le PowerPoint avec toutes ces références sur le site du CIF. Voilà, donc, vous aurez toutes ces références, vous les retrouverez très facilement. Puis, je signale, mais pour la curiosité, ceux qui, entre vous, ceux qui parmi vous, le Michel Foucault en 4 volumes, absolument. Donc, à la doctrine sociale, pour deux raisons, se progressivement imposer, à savoir la liberté des conjoints, la volonté libre et réciproque, et la République elle-même, la République française elle-même, finira très très loin ensuite, finira par faire sienne cette doctrine au XVIIIe siècle, où donc on impose la liberté des deux conjoints. Mais l'Église l'avait promue dès le IXe siècle. C'est très étonnant d'apprendre ça. Ça, vous avez ça dans Michel Rouche. Et même l'idée que c'est l'amour qui est la raison, la cause et le but du mariage est une idée fort originale qui a fini, elle aussi, par se diffuser partout. Sous la forme romantique, soit, c'est-à-dire peu lié à la volonté de bâtir, mais beaucoup trop dépendante des fluctuations de la sensiblerie et de l'émotivité. C'est le cadre dans lequel nous vivons aujourd'hui. Tout le monde aujourd'hui, le premier couple que vous voyez qui vous annonce qu'il va se marier, vous leur demandez « Mais pourquoi tu veux te marier ?» Ils disent « Ah ben parce qu'on s'aime !»« Ah bon ? Quel est le rapport ?» Vous voyez, du point de vue de l'histoire de l'humanité, c'est ça la vraie question. C'est pas « Ah, vous vous aimez, il faut vous marier », mais non, pas du tout. C'est « Tu veux te marier, quelle incongruité ? Quel rapport avec l'amour ?» Et en dehors de l'enseignement chrétien. Donc voilà, c'est… Alors aujourd'hui, évidemment, quand les gens veulent se marier par amour, en fait, c'est très, très bisounours, hein, ou romantique. Quelques-uns mettent en effet dans leur projet la volonté de bâtir. Mais l'important, vous voyez, pour nous, c'est de retenir que l'amour est donc central et fondement, voilà, de la famille. Le second aspect, hein, qui manifeste un aspect social, ben, c'est, oui, il faut maintenir que la famille, c'est un bien pour la société tout entière, et pas seulement pour maintenir l'ordre, comme disait Napoléon. Mais c'est un vrai bien pour les époux, bien sûr, et leurs enfants, mais aussi pour la société tout entière. Les familles ont un rôle social de stabilisation, de rayonnement, d'éducation, de paix, d'entraide, de joie, bon, etc. Donc voilà pour cette doctrine sociale de l'Église. C'est pourquoi ce grand texte du pape François peut et appartient bel et bien au corps de doctrine sociale. Entrons maintenant dans le texte lui-même. Alors, on va d'abord voir le plan et le contenu, mais rapidement, hein, je vais faire un petit survol. Et puis après, je vous dirai qu'est essentiel, c'est-à-dire l'Église veut maintenir l'annonce du mariage et de la famille comme une bonne nouvelle, comme une vocation, un appel. Alors allons-y avec le plan et le contenu. Je vous donne le plan à grands traits. Il y a 9 chapitres. Pour moi, le cœur, c'est le chapitre 4, intitulé « L'amour dans le mariage », où apparaissent, entre autres, les points que je viens de vous présenter. Le chapitre 1 enracine l'ensemble, non sur la lamentation face à un monde décadent, mais sur la parole de Dieu. Genèse, chapitre 1, psaume 128, de même au chapitre 4, il a introduit son propos avec une méditation sur l'hymne à la charité. Vous savez que vous connaissez tous 1 Corinthiens 13, « S'il me manque l'amour, j'aurais beau faire tout ça et encore ça, s'il me manque l'amour, je ne suis rien, je ne suis que cymbale retentissante. » Vous connaissez ça. Et ça, c'est un aspect important de toute la pédagogie de ce pape, c'est de poser les règlements, les logiques théologiques, les conventions derrière la parole de Dieu. Et plusieurs fois, il insiste dans ce texte sur la parole de Dieu, sur l'Évangile avant les lois, sur la parole de Dieu, sur le regard de Jésus avant les dogmes. Il insiste sur le regard de Jésus, sur son comportement et comment nous pourrions le suivre. Cette manière de faire n'annule pas les règles, ne les relativise pas, il faut qu'il y ait des règles, mais les remet à leur place, c'est-à-dire derrière. Ce qui est premier, c'est le regard du Christ. Et ça, vous voyez, c'est quand même très important. Et c'est constant chez le pape François, même dans ses homélies en semaine. Et cette exhortation, donc, commence par la parole de Dieu, ce qui est quand même, avouons-le, remettre les choses dans l'ordre. Bien que, dès l'introduction, nous sommes avertis que nous allons, avec ce texte, vers une disputatio, comme on disait au Moyen-Âge, c'est-à-dire quelque chose qui va susciter des débats entre ceux qu'il appelle les rigoristes et les laxistes. Nous verrons ça. Ensuite, le chapitre 3 expose des points de théologie que la tradition a progressivement formulés. C'est là que sont exprimées les fins du mariage, dont je reparlerai aussi. Mais aussi, alors sujet que je vais traiter parce que c'est très important, la fameuse analogie des épousailles du Christ et de l'Église. Est-ce que ça a un sens? Et quel sens ça a? Il y a ensuite des chapitres plus attendus, dont les aspects sont déjà bien connus et même pratiqués. Là, je les ai surlignés en vert. Le chapitre 2 sur les défis actuels nous encourage, alors il y revient plusieurs fois, mais il commence par nous encourager à cesser de fulminer, de condamner le monde, de dire que tout est mauvais, tout est pourri, il n'y a plus de famille, il n'y a plus d'amour. Non, non, il faut arrêter. Il faut arrêter ces jérémiades. Il faut probablement prendre de la hauteur et voir dans le monde entier qu'il y a en fait, et ça même les sociologues, le confirme, il y a en fait un immense désir de famille, partout. Les gens, ça vient dans les rêves numéro un. Et ça, dans les statistiques, dans les sondages, on le voit régulièrement. Les gens rêvent de quoi? Ils rêvent de vacances, ils rêvent d'un gros salaire, ils rêvent d'une grosse bagnole. Mais non, en numéro un, ils rêvent de la famille. Alors ça, c'est quand même vachement intéressant. Elle est le refuge. Et de fait, c'est ce qu'elle est. Elle est le refuge, le lieu de la solidarité, du secours, le lieu de la consolation. Elle est le lieu de la construction de soi, de la générosité. Et même chez nous, en Occident, elle continue à être une valeur, un idéal dont on rêve. Parfois même, c'est ce que le pape évoque au chapitre 4, on en rêve d'ailleurs jusqu'à se laisser duper par un miroir aux alouettes, on rêve trop. On est dupé par un amour hyper bisou, ou par des émois torrides. En effet, dont on nous assomme de ce genre d'images à coups de feuilletons, de films médiocres, à coups de slogans, et c'est soit hyper bisou, soit émoi torride. Mais ce n'est pas le pain quotidien de l'amour authentique. Et voilà, ça n'est ni le pain quotidien, ni la vérité de l'amour humain. Mais si on est fixé, si on est fixé dans des rêveries de le miroir aux alouettes, quoi, alors forcément, on va vers l'échec. Les chapitres 5, 6, 7 et 9 sont des aspects, j'en parlerai pas du tout, sont des aspects que nos pastorales mettent en œuvre, c'est-à-dire la fécondité du couple, l'avenir familial, l'aventure familiale qui commence aux fiançailles et qui va jusqu'au décès de nos aînés, ça c'est le chapitre 6, et comment on peut vivre ça dans une famille et comment ça fait grandir. Chapitre 7, c'est l'éducation des enfants, et chapitre 9, c'est la spiritualité conjugale. C'est le chapitre 9, bien connu des équipes Notre-Dame, hein, par exemple. Cet ensemble brosse donc à propos de la vocation féconde de la famille, un paysage heureux, mais qui demande qu'on y travaille. Et donc, on s'éloigne du bisounours, hein, qui ne demande pas de travail, mais juste de l'émotivité. On voit bien que le centre n'est pas, le centre de ce mariage n'est pas le fait de faire des enfants, mais c'est plus large. Il s'agit d'entretenir un milieu affectif et fidèle où la vie et l'amitié peuvent grandir et faire grandir mutuellement. Et donc la fécondité, mais ça vous le savez, hein, s'étend donc aux liens intergénérationnels, aux fratries et ensuite au rayonnement social. Reste le chapitre 8, dont j'ai encore rien dit, mais je vais en parler spécialement dans la dernière partie de ce cours. C'est là, vous savez, dans le chapitre 8, et c'est lui qui va susciter des polémiques. Pourquoi ? Parce que c'est là qu'il y a quelques ouvertures concernant les divorcés mariés. Ah, c'est là, c'est au chapitre 8. Donc, on va en parler. Je reviens maintenant avec redire l'espérance de la vocation au mariage. Je reviens sur quelques aspects vraiment intéressants dans ce grand texte. Je vous en propose trois. J'en ai relevé une petite dizaine qui méritent vraiment une réflexion anthropologique, théologique. Mais j'en ai choisi trois, parce que sinon ça durerait des heures et ce serait fort ennuyeux. Le premier, c'est donc cette vocation. On est appelé et il faut annoncer le mariage comme une vocation, comme un appel. Le second, c'est les fins du mariage. On va voir les finalités, les raisons du mariage ou les dons du mariage. C'est un jargon, ça, les fins du mariage. Et puis le troisième, c'est qu'est-ce que ça veut dire cette fameuse image que le couple serait l'image des épousailles du Christ et de l'Église. Qu'est-ce que ça veut dire ? Voilà, je sors de l'ensemble de ce texte, ces trois thèmes. Donc le premier thème, le mariage comme vocation, c'est une bonne annonce. En fait, c'est l'âme du texte de François. À l'inverse de Laudato si, le texte ne commence pas par énoncer l'état catastrophique du monde. Et ça, c'est intéressant. Dans Laudato si, on était un peu obligé pour éveiller, mais on verra, on aura une soirée spéciale hein, sur Laudato si. Il était un peu obligé de le faire, de commencer par annoncer la catastrophe, parce qu'il y a urgence. Alors là, il ne veut pas. Il veut plutôt commencer par annoncer la parole de Dieu. Je vous ai dit pourquoi. Vous savez, je me méfie, moi, à titre personnel, je vous invite à faire pareil. Je me méfie toujours des homélies qui commencent par annoncer le mal. Le monde est pourri, nous sommes de misérables pécheurs, ça va de plus en plus mal. Alors ça, c'est très mauvais, comme point de départ. Surtout qu'il continue en disant « Heureusement, il y a l'Église. » Drôle de bonne nouvelle. Hein. On commence par prêcher le malheur. On commence par annoncer le mal. On commence par faire un tableau calamiteux. Ah ben, quelle bonne nouvelle. Et c'est quand même invraisemblable de faire des homélies comme ça. Parce que c'est invraisemblable et c'est spirituellement faux et théologiquement infondé. Ceux qui ont fait le siffle parcours complet, vous l'avez vu, vous avez eu un texte de Sesboué là-dessus. Ce n'est pas le mal qui est à l'origine et contre quoi ensuite on réagirait. C'est l'inverse qui est vrai. Ce qui est premier, c'est que Dieu est amour et qu'il veut se communiquer, qu'il crée, qu'il aime, qu'il confie. Ensuite seulement, il y a des sorties de piste, des refus, des dénis, des déviances, des défiances. D'où provient le mal ? Mais vous voyez, ce qui est originaire, ce qui est premier et ce qu'il faut annoncer comme bonne nouvelle, c'est que Dieu est amour, que Dieu donne, que Dieu se donne. Alors ça, c'est très important de bien le noter. Ce qui est premier, c'est l'amour qu'est Dieu, dont l'amour humain est l'écho. Et c'est quand même pas mal de le rappeler. Je cite le pape, paragraphe 38. Je vous le lis. « Cependant, nous avons été souvent sur la défensive, il parle de l'Église, et nous dépensons trop d'énergie pastorale en multipliant les attaques contre le monde décadent, avec peu de capacité dynamique pour montrer les chemins du bonheur. » Voilà, ça c'est typiquement dans le langage de François, hein. Que d'énergie pour condamner. Ah, qu'est-ce qu'on est bon là-dedans, hein. Mais ce n'est pas notre boulot de condamner le monde. Notre boulot, c'est d'annoncer une bonne nouvelle. Et on n'est pas les témoins de Jéhovah, hein, qui annoncent le royaume en commençant par prêcher Satan et l'enfer. Et c'est, non, ça, c'est pas nous. Nous, notre annonce, c'est que Dieu sauve, qu'il se donne. Bon, voilà. L'important de ce premier aspect, qu'on trouve sans cesse dans ce texte, mais dans l'enseignement du pape François, c'est de comprendre comment l'amour humain peut répondre, donc vocation, réponse, peut répondre, peut être l'écho de l'amour divin. En fait, c'est assez classique, hein, dans la pensée de l'Église, c'est même dans la tradition de l'Église. Mais il faut sortir quelque peu des mentalités douaniers qui contrôlent la normalité et aller plus en amont. Il faut aller plus en amont que nos règles à l'intérieur de l'Église. Il faut même aller plus en amont que les aspects sacramentels, pourtant importants bien sûr, et que le pape va rappeler avec les grâces et les engagements que produisent les sacrements. Mais il faut aller encore plus en amont. Ce qui est en amont, c'est tout simplement que tout amour authentique est indissoluble. Pour parler comme Jean-Paul Vesco. Dominicain, Jean-Paul Vesco est un dominicain, évêque d'Oran depuis 2012 et d'Alger depuis 2021. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Quand il dit « tout amour véritable » est indissoluble. Allons-nous rejoindre le cœur de ceux qui vilipendent les divorcés, les familles recomposées et autres ? Certainement pas. Il faut arrêter de vilipender. Il faut arrêter de dénoncer, de condamner. Bien évidemment, ces nouvelles formes de famille décalent, déconstruisent un certain ordre social dont la structure de base est ou était la famille et la parentalité. Qu'allons-nous faire ? Augmenter la colère ambiante ? Multiplier les condamnations ? Absolument pas, c'est pas ça qu'il faut faire. Et alors là, je m'oppose à un grand nombre de chrétiens qui passent leur temps à vilipender, à protester, à condamner. Notre contestation, c'est notre témoignage. Notre témoignage, tant par la parole que par les comportements, notre témoignage est contestation. Il a toujours été hein, dans l'histoire de l'Église. Les chrétiens se sont toujours distingués par le témoignage de leur existence. Et c'est ça, en fait, qui appelle et qui conteste. Dans l'histoire de l'Église, c'est très clair hein, ce que je viens de dire. Mais rejeter, mépriser, cultiver son dégoût, ce n'est pas chrétien. D'ailleurs, le Christ a-t-il quelquefois méprisé quiconque ? Ben, il s'est mis en colère une fois ou l'autre. Hein. Il s'est un peu disputé avec les pharisiens, bien entendu, mais méprisé. Or, un grand nombre de chrétiens aujourd'hui s'estiment d'autant plus chrétiens qu'ils méprisent le monde, qu'ils en ont le dégoût. Alors ça, vous voyez ce que je viens de dire, c'est une question constante chez le pape François. Je reviens à tout amour authentique est indissoluble. Oui, il faut continuer à révéler que tout amour construit. Que tout amour construit ce qui ne pourra pas se déconstruire facilement. C'est pour ça qu'il dit indissoluble. En effet, un être qui aime et qui est aimé authentiquement marque l'autre, le fait, littéralement l'augmente. En aimant quelqu'un, vous le faites et vous êtes devenu ce que vous êtes parce qu'on vous a aimé. En ce sens, tout amour véritable, c'est-à-dire tout amour qui construit, non pas l'amour qui consomme, mais l'amour qui édifie, tout amour véritable est indissoluble. Nous sommes, en nous aimant, créateurs de l'humanité qui nous est confiée. Et cette humanité qui nous est confiée ne connaît pas, à vrai dire, d'autres modes de croissance que l'amour. Quand je dis créateur de l'humanité, je veux parler de cette qualité d'être un humain. Nous sommes confiés à nous-mêmes, nous sommes en devenir. Et ça, Heidegger dira même, nous sommes les bergers de l'être. Et ça, c'est l'amour qui va nous aider, l'amour qu'on porte, nous, aux autres, et qu'on nous a porté. C'est l'amour qui va construire en nous cette humanité. C'est ça qui est dit dans cette indissolubilité. Et ce n'est pas prendre perpète, c'est engendrer ce qui nous dépasse infiniment. Voilà ce que fait aimer. En cela, l'amour humain fait écho, répond, continue l'amour créateur de Dieu. Bon, vous voyez, ce que je suis en train de dire tourne à l'homélie de mariage. Alors, allons voir un second point, mais vous voyez bien maintenant ce que j'appelle aller vers l'amont. Il faut aller plus haut, quoi, vers l'amont. Eh bien, c'est ça hein, ce que dit Evesco. Alors, un second point, une seconde question importante est abordée dans ce texte. Je vous en ai déjà vaguement parlé. C'est la question des fins du mariage, entre guillemets. Le pape le rappelle, mais ça a longtemps été une vraie question. Quelle est la finalité du mariage ? Pourquoi promouvoir le mariage ? C'est une vraie question dans l'histoire de l'Église, dans l'histoire de la théologie. Les fins du mariage ne se limitent pas à la procréation, mais elles sont dans le bien des époux. Le bien des époux est la raison, la vocation du mariage, tandis que la procréation en est la naturelle finalité. Si vous voulez, et pour faire vite, c'est la nature qui fait la procréation, c'est la grâce qui fait le bien des époux. Nature et grâce n'étant jamais opposées, bien sûr. C'est ainsi que le mariage ne vient pas apaiser ou canaliser ou socialiser la concupiscence. D'ailleurs, souvent, le mot concupiscence, souvent connoté négativement. Mais, donc je répète, hein, le mariage ne vient pas apaiser ou canaliser ou socialiser la concupiscence, mais le désir de la sensualité est grandi, exaucé par la conjugalité. Et donc le désir est naturellement bon et la sensualité est naturellement bonne. Alors ça, vous voyez, c'est hyper important à penser. Et on sort complètement de l'idée que la finalité unique du mariage serait la fécondité, c'est-à-dire avoir des enfants. Mais donc, cette sensualité, ce plaisir de la chair, cette sexualité, n'est évidemment pas le but de la conjugalité, mais elle est son naturel compagnon. Et vous voyez, quand on dit ça, on fait faire déjà beaucoup de progrès, hein. Alors, probablement pas aux théologiens qui savent ça depuis belle lurette, mais en tout cas aux mentalités collectives. Ce que je viens de dire a quand même quelques conséquences tout à fait sensibles. Si la fin des mariages, c'est la procréation, disent un certain nombre de théologiens du 18e, 17e, 18e, 19e siècle, si les fins du mariage, c'est la procréation, alors les échanges sensuels et sexuels qui ne seraient pas orientés vers ce but seraient peu légitimes, voire conduiraient au péché. On l'a beaucoup affirmé, hein, dans l'Église. On l'a affirmé d'ailleurs au prorata de notre dégoût ou de notre peur de la chair et de ses puissances submersives. Si en effet on avait peur de la sexualité, c'est parce qu'elle était submersive et que l'homme perdait la maîtrise de soi, qu'il était littéralement emporté par la jouissance. Or, quand on est en régime pathologique de toute puissance, on ne supporte pas ça. Et c'est la puissance submersive qui faisait craindre la sensualité. Mais c'est, pensez ça, vous voyez ce qu'on a dit quand même pendant siècles, hein. C'est céder à la philosophie néoplatonicienne qui déteste la chair, le corps, la sensualité, pour préférer la pensée, l'esprit, la spiritualité. C'est une pensée néoplatonicienne, ça n'est pas la pensée chrétienne sur le corps. Donc voilà, et ça c'est, si on reste dans la logique que la fin du mariage, les fins du mariage, c'est la procréation. Mais si les fins du mariage, c'est le bien des époux, les choses changent quand même d'accent. Alors laissez-moi vous citer ceci, hein, c'est au paragraphe 152. Je vous mets le texte avec une illustration pas trop hot que j'ai pu trouver. Mais on trouve ça étonnant, hein, sous la plume du pape François. Je le lis. Nous ne pouvons considérer en aucune façon la dimension érotique de l'amour comme un mal permis ou comme un poids à tolérer pour le bien de la famille, mais bien comme un don de Dieu qui embellit la rencontre des époux. Avouez que si ça nous paraît comme acquis depuis belle lurette dans les pratiques, ça surprend quand même pas mal sous la plume d'un pape. Mais je vous signale que Benoît XVI en avait déjà parlé dans Deus Caritas Est. Et pour finir sur ce point, c'est ce qui est rappelé au chapitre 3, paragraphe 80. Le mariage est en premier lieu une communauté profonde de vie et d'amour qui constitue un bien pour les époux eux-mêmes. Et la sexualité est ordonnée à l'amour conjugal de l'homme et de la femme. Ceci dit, ça pose quand même une question que le pape François n'aborde pas. Alors, je n'ai pas été lire le compendium des deux synodes, parce que c'est considérable, hein, ça fait 300 pages à chaque fois. Mais il y a quand même un absent dans l'ensemble de ce texte. C'est une question qui concerne les pratiques sensuelles et sexuelles en dehors de la conjugalité. Il n'en parle pas. Alors, bon, peut-être, à vrai dire, hein, peut-être ne le fait-il pas. Parce qu'on en a trop dit. Ouais, on en a suffisamment parlé et suffisamment condamné. Il faut arrêter si c'est pour condamner, il faut arrêter d'en parler. Mais je pense que la question demeure. Ouais. Mais lui, s'il n'en parle pas du tout, alors qu'il est quand même pas, il est pas dupe, hein, c'est parce que je pense qu'il est temps de mettre l'arme au pied sur ces questions. Alors, je les répète, hein, c'est les questions de la sensualité et sexualité en dehors de la conjugalité. Il y en a beaucoup quand même. Bah, il n'y en a pas un mot. Bon, voilà. Donc, je vous laisse la question. On pourra en parler une autre fois. Une troisième question a retenu mon attention. C'est celle de la fameuse analogie entre l'alliance du Christ et de l'Église, et le mariage chrétien. On a voulu faire de l'un l'image de l'autre. Alors, puisque celle-ci est indéfectible, n'est-ce pas, la fidélité de Dieu envers son peuple, envers sa création, c'est indéfectible. Alors, le couple qui en serait l'image ne peut, sans grave infidélité, fléchir dans ses liens. C'est en gros la raison théologique la plus mise en avant dans la justification du sacrement du mariage. Vous l'avez probablement entendu 1000 fois. Même le jour du mariage, on le dit dans les oraisons et dans les homélies des bons prêtres, on le répète sans cesse. Tout d'abord, vous savez probablement que cette analogie ne vient pas du Christ, mais de saint Paul. Le Christ évoque bien l'image de l'époux, notamment dans la parabole des vierges sages et des vierges folles. Vous en avez ici une petite illustration. Voici l'époux, c'est l'annonce de la venue du Messie. Et donc les vierges sages, les vierges folles signifient l'attente du Messie. Dans l'Ancien Testament, Osée, le prophète Osée, déjà avait comparé le peuple de Dieu à une épouse, infidèle certes, mais il y avait donc là aussi cette image des épousailles. Et de même, le Cantique des Cantiques peut être une sorte de fable poétique décrivant les mouvements de désir, de dérobade, de quête, de recul entre le peuple et Dieu. Et donc une sorte de relation amoureuse, conjugale. Mais Paul, saint Paul, pousse beaucoup dans sa lettre aux Éphésiens chapitre 5. Bon, il faudrait citer ce texte entièrement et en faire l'exégèse, mais je ne vais pas le faire, le pape ne l'a fait pas non plus. En gros, saint Paul tente de parler ce qui relie le Christ à l'Église en termes de soins, de don de soi et d'affection peut-être. Il dit le Christ nourrit l'Église, il en prend soin, et l'Église, du coup, se soumet au Christ. Voilà. Et pour ce faire, il prend l'image du couple. Mais du coup, ça charge le couple d'être l'image de cette relation. J'ai été heureusement surpris, voilà mon troisième point, de trouver sous la plume du pape François ceci. Paragraphe 74. C'est en s'unissant pour être une seule chair, les époux représentent les fiançailles du Fils de Dieu avec la nature humaine. Même si l'analogie entre le couple mari-femme et celui Christ-Église est une analogie imparfaite, elle invite à invoquer le Seigneur pour qu'il répande son propre amour dans les limites des relations conjugales. Donc voilà, ça c'est un texte très important. L'analogie du couple avec l'alliance Christ-Église est dite imparfaite. Pourquoi? Pourquoi est-elle imparfaite? Je suis bien d'accord avec la pensée du pape François, en fait une analogie imparfaite, c'est-à-dire finalement qui ne convient qu'à moitié. Alors j'ai relevé cinq aspects. Premier aspect, le pape parle une ligne plus haut. Voilà, vous pouvez le lire, hein. Les époux représentent les fiançailles du Fils de Dieu avec la nature humaine, pas avec l'Église. Ça, c'est intéressant. Ce qui me paraît plus juste, si on parle du projet créateur de Dieu. C'est bien là le but, hein, que tout soit déifié, pas seulement l'Église. Dans ce projet de déification, l'Église est ministre, moyen, canal, signal de ces épousailles du ciel et de la terre. Comme vous le voyez ici, à l'architecture de Sainte-Sophie de Constantinople. À plusieurs reprises, le pape fait ce petit écart de langage. Et pour moi, c'est évidemment voulu. Et donc, ce petit écart de langage, c'est-à-dire, il évite de dire, enfin, il ne l'évite pas, il le dit une fois ou deux, que l'analogie du couple, c'est l'image des épousailles du Christ et de l'Église. Mais le plus souvent, il dit autre chose. Il y a un écart. Ainsi, au paragraphe 120, « En effet, cet amour fort qui unit les époux, répandu par l'Esprit-Saint, est un reflet de l'alliance inébranlable entre le Christ et l'humanité. » Et au paragraphe 121, « Le mariage est l'icône de l'amour de Dieu pour tous. » Donc voilà, ça c'est la première raison pour laquelle cette image est imparfaite. Dire que c'est les épousailles du Christ et de l'Église, il y a quelque chose d'imparfait. C'est plus juste de parler des épousailles du ciel et de la terre, de Dieu et du monde. Second aspect, l'image est imparfaite parce qu'on ne peut guère penser aujourd'hui les relations dans un couple, dans un rapport de domination, comme le fit Saint Paul et toute la culture méditerranéenne avec lui. Non, non, les femmes ne sont pas soumises à leur mari. Le mari n'est pas la tête pour la femme. Etc. Troisième raison pour laquelle cette image est imparfaite, et c'est une chose qui m'a toujours intrigué, on n'épouse pas son propre corps, ou alors pathologie lourde. Mais on n'épouse pas son propre corps. Donc, quand on dit que le Christ épouse l'Église, qu'est-ce qu'on raconte? Parce que l'image de l'Église corps du Christ est, je crois, plus forte que celle de l'Église épouse du Christ. Et pourtant, elle cohabite hein, chez saint Paul, on a les deux. Mais celle du corps du Christ que nous formons domine très largement toute la théologie de saint Paul. Et de saint Augustin, et de toute l'Église. L'Église est le corps du Christ, et on n'épouse pas son propre corps. Et d'ailleurs, cette dominante hein, de la théologie de l'Église comme corps du Christ, elle est dans le credo. C'est ce qu'on dit quand on dit « je crois à la communion des saints ». Et puis, elle est dans toute la théologie de l'Eucharistie de saint Augustin. Donc ça, c'est la troisième raison. Mais surtout, la quatrième, le pape, paragraphe 122, dit ceci qui me paraît très juste. Il ne faut pas faire peser sur deux personnes ayant leur limite la terrible charge d'avoir reproduit de manière parfaite l'union qui existe entre le Christ et son Église. Cette prudence n'est pas de laxisme, ni une remise en question complète de la théologie du sacrement du mariage. Hein, certains ont dit ça, pas du tout. C'est une invitation à décaler les accents. OK, pour représenter à la limite, pour représenter l'alliance de l'homme. Tant est dit que représenter, faire prendre un nouveau présent à quelque chose de vrai, mais de disproportionné. Dans la dernière phrase de la citation que je vous donne, nous avons un bel équilibre plus juste, je pense. Il est dit, vous ne l'avez pas ici, mais je vous le lis, cette analogie répand son propre amour dans les limites de la relation conjugale. Voilà comment on peut comprendre la chose. C'est lui qui vient sonner. C'est pas nous et qui vient tout emplir, qui vient tout transformer. C'est pas nous qui nous mettons à la hauteur des épousailles du Christ et de l'Église. Si, voilà l'image de l'âne est trop chargée, et si on peut dire que le Christ, les épousailles, que le Christ est lui l'image parfaite des épousailles de Dieu et de lui. Moi? Alors je continue. Cinquième aspect, c'est le dernier, qui fait dire que cette image des épousailles du Christ et de son Église est imparfaite pour parler du mariage, mais cette fois dans le sens qu'elle est trop parfaite. Pour que le mariage soit un sacrement, peut-être n'est-il pas utile d'aller si haut. Alors moi, c'est vraiment quelque chose sur lequel je milite et j'ai texte du pape François. C'est-à-dire dire que un couple reflète l'amour de Dieu et de l'humanité ou les épousailles du Christ et l'Église, c'est trop. On n'en a pas besoin de tant pour fonder le sacrement du mariage. Ces deux éléments que je vous montre ici, c'est-à-dire faire l'expérience dans l'amour humain de la transcendance, à savoir, je suis le ministre de ce qui me dépasse infiniment, ça suffit pour fonder le sacrement du mariage. Ou bien participer à l'œuvre créatrice de Dieu, aussi bien par la fécondité, c'est-à-dire le fait d'avoir des enfants, que par le fait de s'étayer mutuellement, ça suffit pour fonder un sacrement. Mais on n'a pas besoin d'une telle hauteur vertigineuse et trop exigeante. Donc voilà pour le texte lui-même. Alors, allons, venons-en. Est-ce que vous voulez qu'on fasse une petite pause? Tiens, parce que, ouf, faut respirer un peu quand même, hein. Si vous avez une petite question, des choses, je suis à votre écoute. Ah. Est-ce que vous êtes toujours là? J'ai l'impression de vous avoir perdu. Je ne vous ai pas perdu?
Non, 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 on est là.
Ah bon, voilà, parce que
On est là.
je...
On n'a plus juste
Bon.
le PowerPoint.
C'est bon? Vous n'êtes pas trop assommé?
Non.
Non, par contre, on n'a plus le PowerPoint. Moi, je ne l'ai pas.
Alors, je le remets. Hop, attendez, je remets ça, ouais. Partager l'écran. Ah oui, en effet, tiens, c'est bizarre. Alors, ah oui, qu'est-ce que ça veut
Dire
dire?
qu'on n'entend pas sur.
J'arrive, j'arrive. Hop, je le remets. Voilà. Alors, l'animateur. Oh là là. Oh zut. Ne sais pas comment il faut faire. Est-ce que si je fais ça, est-ce que vous avez quelque chose? Dites-moi. Non? Non,
Non,
vous n'avez pas mon écran?
non.
Ah zut.
Non.
Ah zut, alors qu'est-ce que c'est devenu? Ah. Il s'est passé quelque chose parce que j'ai entendu le machin là qui relançait l'enregistrement. Je crains qu'on ait été coupé et que ça. Alors
Ouais,
voilà.
tout coupé.
Voilà le machin qui revient.
Ouais,
On
tout
a
coupé.
été coupé?
Oui.
Zut. Alors, est-ce que j'ai encore la main? J'essaye ça. Bon, alors, je refais démarrer la procédure, on verra. Hop, voilà. J'essaye de refaire le truc que j'ai fait tout à l'heure. Non. Eh bien, j'y arrive pas. Oh, ça,
Non,
c'est
ça
franchement
va très
bizarre.
bien.
Attendez, pourquoi j'y arrive pas? Il faut que on en comme, ah oui, il faut est-ce que oui, j'ai un petit délai, donc j'essaye quand même de comprendre parce que ça, c'est si vous n'avez pas le machin, vous allez être perdu. J'ai des textes en plus à vous donner. Si vous n'avez pas la lecture, ça va être impossible. Donc c'est moi qui suis à l'intérieur. J'ai une petite manœuvre, vous inquiétez pas. Hein, je vais faire non pas la réunion parce que ça, j'aurais vraiment des ennuis, mais je vais fermer mon PowerPoint et je vais le rallumer. Bon, ça va, vous suivez bien?
Oui, ça va.
Comme vous êtes un peu loin, tout à l'heure, j'ai fait le cours à 14h, mais j'avais des gens en face de moi, et donc je voyais que ça accrochait à peu près. Mais là, je ne vous ai pas, c'est embêtant.
Oui,
ça, alors, est-ce que là, voilà, je réessaye, voilà. Toc. Partager l'écran. Ah, je crois que ça va marcher. Ah, non. Bon, alors, il n'y a pas moyen, on m'a empêché, il y a un système qui m'empêche de prendre la main comme animateur. Zut. Eh bien, je ne sais pas comment faire. Ah, zut. Alors là, c'est hyper embêtant parce que j'ai, comme par hasard, maintenant, j'ai 1000 textes à vous donner.
Et vous ne voulez pas carrément rebrancher le Zoom, enfin sortir du Zoom et
relancer
dessus? Ben, je ne sais pas.
J'ai des craintes. Hein.
Ouais.
Ouais, j'ai des craintes parce que là, vraiment.
C'est marqué que c'est Dominique Longchamp qui est l'animateur.
Ah, Dominique Longchamp est l'acteur.
Et l'animateur. Est devenu l'animateur. C'est étrange.
Alors, attendez, je vais essayer de voir. Hop, hop, hop. Dominique Longchamp, voilà, je clique sur lui. Discussion épinglée. Non, non, je ne veux pas l'épingler. Vous avez été coupé plusieurs fois, longtemps? Ou non.
Bon. Il y a eu plusieurs fois des baisses de son, oui.
Oui.
Il y a marqué que vous avez désactivé. Il y a marqué que vous avez désactivé le partage d'écran par les participants. Je ne sais pas ce que ça veut dire. L'animateur a désactivé le partage d'écran par les participants.
Ça, c'est normal, ça.
Ouais, mais moi, je devrais pouvoir
reprendre la main.
Ah oui, alors je vais. C'est ça, il faut que je me parce que comme il était coupé, il a dû oublier que j'étais l'acteur principal. Alors, attendez, je cherche comment j'ai fait tout à l'heure. Oh, c'est pénible. On n'y comprend rien. Voilà, ça c'est quoi? Non. Application, tableau blanc, quitter, voilà. Hop, ça c'est quoi? Non. Oh, parce que c'est pénible. Je suis désolé. Hein. Le monde de la technique.
Qui domine l'homme alors que c'est l'homme qui devrait dominer la technique.
Il y en a quelques-uns qui arrivent à la dominer, mais pas moi. Moi, je n'y arrive pas.
Ouais, mais nous, on fait partie des générations qui essayons de nous mettre à jour.
Je ne sais pas si je suis l'animateur, mais j'ai un message suspendre, arrêter l'enregistrement, Bernard.
Non, non, surtout pas.
Alors, je touche pas. Rien.
Ah ouais, je vois. Non, 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 haute. Alors, et pourquoi il est passé à Dominique Longchamp comme haute? C'est moi l'hôte. Je cherche. Ah zut, alors, ben ça, c'est une anomalie bien étrange. Je vais essayer ça. Non, ça ne marche pas. Je vais essayer ça. Non. Eh bien, je ne sais pas. Inviter, me mettre en sourdine, sûrement pas. Bon, mais tant pis, je vais continuer. Oh, ça va être une aventure pénible pour vous.
C'est peut-être à Dominique Longchamp de se débrancher aussi. Parce qu'il est marqué comme animateur. Donc. C'est lui qui bloque.
Alors, ouais, Dominique, essaye de, tu vois, sur haute, T'essayes de te barrer comme hôte. Je ne sais pas comment tu peux faire, par contre. Alors, participant, pourquoi il me fait ça? Tout à l'heure, ça bouge. T'as réussi quelque chose, Dominique, non? Je t'entends pas.
Activé. En mettant la liste des participants sur la droite, je vois que je suis désigné comme l'hôte.
Ouais.
Une évidence pour tout le monde. Renommer.
Oui.
Je peux me renommer, mais.
Essaye, mais.
Si c'est un nouveau nom d'affichage, non, aucun intérêt.
Ouais, non, c'est ça. C'est ça,
ce qu'on appelle un putsch.
Ouais.
Désactiver le son plus. Mais en fait, comment ça se fait, ce truc-là?
Ah oui, ça, comment ça se fait? Aïe. Eh bien, ça, alors, voilà une drôle d'énigme. Ou alors, on essaye de reprendre la manœuvre. Dans ce cas-là, on en a pour, je pense, 3 minutes.
Oui.
On va quitter la réunion et on reprend tous le lien.
Oui.
C'est risqué, hein?
Non, je ne pense pas.
Tu ne penses pas que c'est risqué?
Non.
Tu penses qu'on peut le faire?
Oui.
Alors, allons-y. Alors, à tout de suite, hein, dans 3 minutes. Allez.